Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et nous sommes mardi matin 11h et nous espérons vivre des good vibrations. Et pour une petite chronique rock, je vais passer la parole à monsieur Frédéric Gournay, auteur de La métaphysique du rock. À vous, monsieur Gournay.
Merci Yves. Oui, aujourd'hui nous recevons Nicolas Chemla. Alors pour le présenter, je vais me permettre d'emprunter la courte présentation qu'on a fait Zone Critique de lui. Alors Nicolas Chemla est auteur, rêveur, marcheur, biker. Il qualifie sa littérature d'halluciniste, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Son premier roman, Monsieur Amérique, paru en 2019 chez Séguier, annonce l'ère des cyborgs, des corps instagrammés et de la post-vérité. Cela dit, comme ça ne parle que de bodybuilding, personne ou presque ne l'a lu. Mais ses rares lecteurs trouvent que c'est un très grand roman, de ceux qui rendent peut-être la mort moins ignoble quand on les a écrits. En 2021, son roman Murnau des ténèbres est finaliste du prix Renaudot. En 2023, L'Abîme, roman qui réinvente le gothique, est finaliste des prix des Deux Magots et du prix de Sade. Toute son œuvre, traversée par la fluidité des genres, se situe à la frontière trouble du réel et du rêve. Bonjour Nicolas.
Bonjour Frédéric.
Cette présentation qu'a fait Zone Critique de vous, ça vous convient? Ça vous va?
Tout à fait.
Oui, ça vous résume bien. Ouais. C'est pas évident de résumer un auteur, chroniqueur, essayiste. La question qui me vient à l'esprit, puisque j'ai lu quasiment la totalité de vos livres, c'est de quelle manière, par quel biais vous êtes arrivé à l'écriture?
Ah.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de livres chez les
Chemla? Ah oui, mes parents étaient plutôt, sont plutôt lecteurs. Je crois que ça m'est un peu tombé dessus.
Mais vous rappelez d'un texte ou d'un livre ou d'un roman qui vous a marqué et vous dit ah.
Alors oui, c'est pas très original, mais je me souviens, j'étais très jeune et je pense que c'était peut-être au CP ou au CE1. Et l'institutrice nous avait lu un extrait du Seigneur des Anneaux.
D'accord.
Où je crois que c'est Frodo qui porte le. Enfin, comment dire, qui enfile le manteau.
La cape d'invisibilité.
Non, c'est pas la cape, c'est l'anneau, je crois.
Ah oui, l'anneau d'invisibilité.
Du coup, il devient invisible. Enfin, bref. Et j'avais été complètement fasciné. Je trouvais ça génial. Je me suis dit, mais c'est trop bien, comment avec des mots. On peut comme ça provoquer l'imaginaire quoi, et faire apparaître des choses. Donc c'est un de mes premiers souvenirs effectivement d'une vraie émotion littéraire. Et après, donc, je ne sais pas si on peut parler de vocation ou quoi, mais j'ai toujours été, en tout cas très tôt convaincu que c'était ce qu'il fallait que je fasse et que c'était à peu près la seule chose qui valait la peine d'être faite. Et puis donc je me suis mis à écrire assez jeune. Hein,
ouais. Voilà. Et par contre l'édition c'est arrivé plus tard.
Ah, beaucoup plus tard. Eh oui, parce que c'est pas évident.
Oui, c'est très difficile.
Les portes ne sont pas grandes ouvertes, ouais. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Non, puis je sais pas, il fallait que je gagne un peu d'argent quand même. Ouais. Donc je fais des études, j'ai travaillé pendant très longtemps dans des agences de com, d'un pays à l'autre, d'une capitale à l'autre. Je fais des choses passionnantes. Enfin, qui, moi, m'ont passionné, en tout cas, mais qui, en plus, m'ont permis, je pense, contrairement à beaucoup d'auteurs qui naissent un peu dans le sérail, mm-hmm. dans le milieu...
Sortent un premier roman à 21 ans, 22 ans...
Voilà, moi, j'ai été vraiment au cœur de la machine, quoi. C'est-à-dire mm-hmm. que la com, les marques, la manière dont elles construisent le monde, ou le reflètent, enfin, c'est les deux, hein, d'ailleurs, il y a un effet un peu l'œuf et la poule. Donc moi j'ai étudié le management, le marketing et j'ai fait de l'anthropologie et j'ai toujours été très tôt intéressé par la manière dont les images structurent les images et les discours structurent le monde et sont structurés en retour quoi et donc travaillant dans ce job là j'étais véritablement au cœur de la machine ou de la matrix comme vous voulez.
Oui.
Et donc ça c'est assez génial, en plus ça m'a permis d'écouter les gens parler pendant des années. Je passais ma vie dans ce qu'on appelle les focus groups. D'accord. Donc de toute nation, de tout genre et de tout âge, à discuter de plein de sujets. Donc ça, c'est quand même un matériau, à mon sens, assez génial pour un...
Vous preniez beaucoup de notes, vous enregistriez des choses ou c'est tout dans la tête?
Ah, mais je suis nourri, ouais, enfin, je prenais des notes parce que de fait, derrière, il y a des rapports, il y a des décisions, il y a des conclusions, Non, mais surtout, c'est une espèce d'imprégnation totale, quoi, de... Voilà, bref.
Et en plus, vous avez donc beaucoup voyagé en même temps pour ce travail.
Ah oui, j'ai fait à peu près tous les continents, un nombre incalculable de pays.
Donc, avant de commencer à écrire véritablement, en tout cas, avant d'être édité, vous avez vécu, comme on dit.
Ouais.
Et vous avez connu plein de choses, et plein de pays, et plein de continents, des langues différentes, des mœurs différentes,
des
philosophies différentes.
Alors oui, parce qu'effectivement, ça fait un peu partie de... je pense, de mon parcours, enfin en tout cas de mon esprit, de la manière dont j'écris, c'est que moi déjà je viens de cultures mélangées, hein. Je suis d'origine tunisienne, je suis juif, une grande partie de ma famille est juive, mais une autre est catholique, donc j'étais vraiment à la croisée des cultures dans mon sang même, quoi. Mais après, avant 20 ans, je suis parti vivre au Vietnam. Au fin fond de la campagne, voilà.
Et dans à quelle occasion, à 20 ans, vous êtes parti?
Ben, en fait, j'ai monté une mission pseudo-humanitaire où j'allais donner des cours de français et d'anglais dans des orphelinats et des universités. Et donc, je me suis retrouvé vraiment dans la banlieue de Saïgon, mais où c'est déjà... À l'époque, le Vietnam était le deuxième pays le plus pauvre du monde, en 94. Donc bref, j'étais dans un quartier où il y avait globalement pas de blancs. J'avais appris un peu le vietnamien, voilà. Et donc j'ai été.
C'est l'époque où ça parlait encore un peu français au Vietnam, quand même.
Très peu.
Les vieux vietnamiens parlaient tous français.
Oui, les vieux. Mais sachant que la moitié de la population avait moins de 25 ans, ça en fait pas beaucoup. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que moi, qui globalement, j'avais jamais fait de très grands voyages, de voyages lointains. D'ailleurs, mes parents non plus, d'ailleurs. Je me suis retrouvé sous les tropiques, sur les traces justement aussi des auteurs et des ethnologues qui m'ont fait rêver. Je me suis plongé dans cette culture-là, dans laquelle, j'imagine qu'on va reparler un peu de surnaturel et de troubles du réel et du rêve. Mais enfin voilà, le Vietnam, c'est un pays hallucinant. Pour moi, c'est un terme qui est devenu maintenant très, très à la mode et un peu galvaudé, mais c'est vraiment le pays de la déconstruction, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peu de pays sur Terre où l'Occident et la modernité c'est à ce point renversé sur elle-même, retourné sur elle-même, et re-retourné, puisque en fait, de fait, les Vietnamiens, notamment ceux du Sud, ont complètement embrassé le progrès, pour utiliser un terme un peu diabolique. Mais donc voilà, c'est une culture hallucinante. Enfin, je sais pas si vous avez entendu parler de la secte Cao Dai, par exemple. Les Cao Daïstes, c'est des Vietnamiens qui, lors de séances de spiritisme, ont croisé Victor Hugo, Jeanne d'Arc et je ne sais plus quel est le troisième esprit qui fait partie de leur panthéon, et ont créé toute une religion autour de ça. Donc vous voyez bien qu'on est... Enfin, il y a à la fois du bouddhisme, de l'animisme, de l'occidentalisme, en tout cas un fruit de la présence coloniale. Donc ça, c'est des choses qui me passionnent, quoi. C'est
donc à 20 ans, de plonger dans cet univers-là,
et ça
vous a marqué au point que ça vous poursuit encore dans votre œuvre, dans votre travail, dans votre écriture?
Ah ouais, ça marque, quoi. Ouais, enfin, ouais. C'est un pays très, très ensoleillé, très souriant, mais où la ténèbre est constamment présente, la catastrophe aussi, et le rêve est partout, quoi, et les esprits sont partout.
Et puis la guerre n'était pas si loin.
Les
massacres des Khmers rouges. Donc, voyage à 20 ans, ensuite travail, études. L'édition plus tard. Non, mais c'était juste pour souligner le fait que vous avez vécu avant d'écrire.
Bah oui, puis non, mais enfin, j'ai écrit en même temps que je vivais, mais bon, ça n'intéressait a priori personne. Parce que donc voilà, il y a quand même un peu des chapelles et des. Et moi, j'avais pas la bonne carte de visite, on va dire, et je me suis pris pas mal de râteaux, comme tous les écrivains. Les fameuses lettres types. Non, j'ai quand même...
Où on vous rappellera.
Vous allez parler d'Amsterdam, mais Amsterdam faisait partie d'un ensemble qui avait passé des comités de lecture, notamment chez Flammarion et chez Plon, et j'avais été reçu par les éditeurs qui m'avaient tous dit, les trois, qu'ils trouvaient que c'était trop subversif.
Ouais.
Donc moi, je me disais, mais enfin, la littérature, elle est faite pour être subversive. Ouais. Enfin bon, ça n'avait pas passé, voilà. C'était pas allé plus loin. Et puis j'ai autopublié à 30 ans. J'ai autopublié un texte de poésie un peu expérimentale qui s'appelle Le Testament de Saint Farucel, qui était déjà complètement... Enfin, je présentais ça comme un poème luciférien en 18 parties, puisque 18, hein, 6, 6, 6, et que j'ai écrit entre, ouais, enfin, globalement à 17 ans. Et j'avais besoin qu'ils sortent pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Donc j'ai pris, vu que je voyais que ça passerait jamais et que ça n'intéresserait décidément pas grand monde, j'ai pris sur moi de l'auto-éditer. Mmh. Et puis après je suis passé...
Ça vous a permis quand même de rencontrer des gens dans l'édition, oui.
Bah, oui, puis surtout de passer à autre chose, en fait, de me libérer de ce texte qui est c'est sous-titré un journal d'un possédé, donc, enfin, qui rejoint un peu l'abîme, hein, déjà. Mais j'avais besoin que ça sorte pour pouvoir vraiment passer à l'étape suivante. Quoi.
Et donc, depuis, il y a eu quand même 5 livres, hein, deux essais, 3 romans.
Ouais.
Moi, je vous ai découvert dans Les mots de la musique,
oui.
Un ouvrage paru chez Fayard, dirigé par Franck Midioni, qu'on a reçu la semaine dernière.
Et oui.
Où il a demandé à 222 écrivains de parler de 222 musiciens,
oui.
Quel que soit le style. Hein.
Et dont vous faites partie.
Et je fais partie, oui. Et moi, je suis tombé sur... Je le dis franchement, je vous l'ai dit tout de suite, et je l'ai dit à tout le monde, y compris à Franck Midioni, que c'était le meilleur texte sur 222, ce qui n'est pas rien. Et c'est un texte sur Little Richard. Est-ce que vous voulez bien nous le lire? Parce qu'il n'est pas si long que ça.
Ouais, une petite intro d'abord ou
comme, vous voulez, comme vous voulez, comme vous le sentez.
Bah... Non, je voudrais juste quand même en parler un tout petit peu avant, oui. Pour expliquer.
Allez-y.
Pourquoi Little Richard. Parce que, bon, Little Richard, c'est quand même un personnage complètement dingue, mais dans tous les sens du terme d'ailleurs, voire folle, on pourrait dire.
C'était une grande folle,
oui,
déjà.
Voilà, mais justement, en fait, moi, ce que je trouve passionnant dans son parcours, c'est qu'il est habité, il est habité par la honte, par le péché, par le. Enfin voilà, il vient d'une famille très pauvre, noire, du sud des États-Unis, avec un père pasteur, et donc le preacher, quoi, qui. Et donc il est complètement habité à la fois par l'histoire de son peuple, les visions du christianisme, et il est électrisé, quoi. Enfin, c'est un type qui, je pense, a mis les doigts dans la prise. Et alors, il vient en plus d'une... On sait qu'il a fréquenté l'espèce de caravane des black queer, donc de cette population complètement interlope et intergenre, on va dire. Qui tournait dans les villages et qui faisait des shows
assez... On est quand même dans les années 50-60, hein,
voilà.
Faut le rappeler.
Hein. Oh non, bah, carrément même fin des années 40 et années 50. Donc c'est dans une société ultra conservatrice et raciste. Et Little Richard, voilà, c'est une espèce de foudre qui tombe du ciel, enfin où la foudre lui est tombée dessus, avec des morceaux super courts, avec plein de double entendre, de double sens, quoi, très 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 sexuel, et qui a toujours à la fois été, j'ai envie de dire très ouvertement, une espèce de puissance un fleuve noir du désir qui va dans tous les sens. Et en même temps, voilà, on sait, enfin, dans sa vie, il a parfois, pendant très longtemps, renoncé à sa sexualité. Il est retourné à la religion, puis ensuite, il est revenu dans les spotlights parce que globalement, il pouvait pas échapper à la puissance de feu de son talent et de son désir. Et donc voilà, c'est un type qui me, alors en plus, la communauté gay, donc dont je fais partie, hein. N'a jamais été très tendre avec lui, parce qu'on lui a beaucoup reproché, justement, de pas être le gay émancipé, heureux, que tout le monde, enfin, en tout cas, que la communauté voudrait mettre en avant. Quoi. C'est vraiment le type qui est possédé, habité, qui globalement sera jamais totalement à l'aise avec lui-même. Et ça, bah, pour un romancier, enfin, en tout cas, quelqu'un qui s'intéresse aux personnages. C'est...
Tous les grands personnages du rock'n'roll sont hyper romanesques. Enfin, je connais pas un qui mérite pas un roman. Donc, bah,
voilà. Alors, Little Richard, donc, Feu de nuit, ça s'appelle Feu au pluriel. Allez hop. Ça me brûle et me réveille en sursaut, comme chaque nuit, à peine apaisé, ça m'attise et m'embrase à nouveau, sans fin, sans repos, ce feu fol et fort encore, au corps et creux de mon âme, qu'il fouille et crame, ah ah, il faut que je m'ouvre, au creux de mes reins, le fouet ardent me dresse au milieu des corps des amants endormis, Ils sont des dizaines, affalés, avachis alentour, tutti frutti, montagnes de chairs emmêlées, océans de courbes chaudes, tous apaisés, eux et elles, tous assoupis, frémissant à peine, nos désirs embrumés dans leurs rêves, le souvenir de nos étreintes encore si fraîches, alors que moi, putain, enclume au crâne, l'arsène interminable, les doigts dans la prise, tasé par le roc qui roll ad vitam. Où me trouvais-je encore? Il est quoi, 5-6 heures, par les baies vitrées du penthouse? Le monde s'étale à nos pieds, là-bas l'aube pointe le bout de son nez, qu'elle doit avoir moins poudré que le mien. Qu'est-ce qu'on s'est mis hier soir, bordel? J'en veux encore, juste encore un peu, mais où est-ce que je l'ai mise, putain? Je ne sais même pas où je suis, ni dans quel hôtel, d'une ville à l'autre, d'une suite royale à l'autre, c'est une longue nuit électrique et sans fin. Allez debout, putain, voilà un pas, puis l'autre. Oh mama, mama, cette fièvre, ce venin qui m'enflamme. Faut que je retrouve ce saint onguent, cette poudre dense, j'ai dû la laisser dans la salle de bain. Évitons d'écraser un pied ou une main au passage. D'un cul à l'autre, d'un sexe à l'autre, c'est le même amour, qu'ils sont belles tous. Certains portent encore leur masque ou leur robe et le mascara coulé dessine des larmes de joie sur leur visage d'apôtre. Est-ce que c'est ça l'enfer? Hier soir encore, je leur ai montré sur scène qui était le vrai dieu du rock'n'roll. Ils étaient combien de milliers, noyés de vol, submergés d'amour noir, invisible, une morsure acide. J'ai encore posé le pied sur le clavier et j'ai sauté sur le piano, debout et presque nu. Oh mama, mama, sœur Lady Java aurait été fière de moi. Et toutes les créatures queer de la nuit du Gothic South, les mandragores dans la brume et les bouges à la frontière, à l'orée des mondes où s'inversent les ombres et les codes. Debout sur le piano, wabab loula, j'ai absorbé la vague de leur jeunesse endiablée, j'ai reçu leur énergie et j'ai irradié de lumière jusqu'au soleil. J'étais colonne ardente de foudre jusqu'aussi loin que porte ton âme. Je portais mon habit aux éclats de miroir, rayonnant, projetant alentour, dans toutes les directions, tout l'amour et le désir. Wow, shake it a baby! Frénétique, saccadé, oh mama, mama, ils m'aimaient enfin. J'étais inondé de leurs regards désirants, moi qui avais à peine... qui pouvait à peine soutenir le regard de machette de papa, ses yeux presque aveugles, ses regards qu'il ne m'offrait jamais d'ailleurs. J'étais sa honte, son malheur, le gamin chétif et malingre, raté, raté, mama, toi-même, tu sais, c'est vrai. Une jambe plus courte que l'autre et un bras de travers et des airs de fillette. Jamais un regard, jamais un mot tendre. Et maintenant, regarde, mama, je suis la pulsion de l'univers, le centre du monde. Regarde, mama, comme il... Oups, fuck, je me suis étalé dans le tas... pris les pieds dans une jambe qui traînait là, le nez droit dans son cul tout chaud. Ouh baby, quel cul! Il s'éveille doucement et grogne et se cambre et frétille doucement et déjà je le lèche et il s'ouvre alors, allez hop, je l'enfile. Oh ma bite fait ce qu'elle veut, elle me mène par le bout du nez, elle s'enfonce et c'est l'électrochoc. Comme quand gamin j'avais suivi les grands gars du village, leurs muscles noirs luisants de sueur, ils m'avaient traîné là où on n'a pas le droit d'aller. Derrière le cimetière, passer les sycomores, oh sycomore, sycomore, c'est une terre sacrée, tout le village le sait, et il y a ce trou entre les racines, ce trou d'où hurlent les morts, et comme ils me battent souvent, les garçons, j'obéis et j'enfonce ma main dans le trou interdit, et c'est comme le jack que l'on branche sur l'ampli, et le rock rage alors, la guitare rugit et surgit sans moi toute la souffrance et tous les pleurs. Les esclaves noirs brûlés vifs et les crics bafoués, et m'assaillent aussi toute l'énergie étouffée et les rites païens. Oh mama mama, où est cette sainte Bible? Les trans danses de fertilité et d'éternité, et les rythmes bannis, le rythme du sexe et le rythme du sang et le rythme des ondes de la matière noire, et peut-être aussi qu'au fond de ce trou poisseux se cachait une source cosmique, un branchement sur le courant des étoiles, je ne sais pas, comme les héros des comics à son contact, j'ai été irradié, et depuis mon sang est de pur plutonium en fusion, Mister Atomic. Oh mama, je suis the originator, the creator. Tout est parti de là. J'ai pris le rythme de tes mains qui frottaient le linge contre le grattoir matin et soir et je l'ai électrocuté, décuplé, accéléré. Et de là le frisson shake, shake, shake it baby. Partout, le monde, dans tous les sens. Et à jamais, comme tu étais belle, mama, et comme il t'aimait, toi, papa, comme il te faisait souffrir aussi et hurler au milieu de la nuit. Je ne savais pas ce qu'il te faisait, mais il te faisait ça, non? Alors le bel amant que j'encule, c'est quoi son nom déjà? Sally? Tourne son visage vers le mien et c'est une gueule pourpre de démon aux yeux d'ivoire et aux dents noires. Oh mama, il me poursuit partout. Il tire sa langue de venin et me frôle de ses ailes de limaille et me dit « Je t'ai traîné dans la boue et je t'ai fait or. Et tu seras encore et encore et pour le siècle des siècles, wabab loula, dans la fièvre éternelle et tu seras le sang noir qui charrie la fureur et l'extase au fond des âmes et embrase les cœurs et tu seras le fleuve noir qui renverse le monde et le feu noir qui transforme la rage en éclair et tu auras des millions d'enfants qui t'oublieront mais tu revivras en eux pour toujours. Wabab loula, dans leurs accords et leurs constructions fantastiques, leurs harmonies distordues. Tu ne connais pas leur nom mais le tien est inscrit sur leurs lèvres en écho perpétuel sur les ondes de la planète planète entière. JB, Jerry, Otis, Mick, John and Paul et Jimmy, ceux-là tu les connais, mais bientôt Prince, Gaga, Bowie, André 3000, Tyler the Creator, Fred Chichin et Aerosmith et Lil Nas X et tellement d'autres encore, sous toutes les formes et à toutes les guises, tu ne t'arrêteras jamais de taper du pied. Et de Woo Shake It Baby, tu la vois, ta progéniture interminable, alors je l'embrasse et m'effondre sur son dos et le soleil se lève enfin, une aube moins poudrée, tu parles. Le soleil lui aussi brûle de ce même désir qui me consume et m'anime, la même énergie de l'abîme dont je suis l'infatigable aiguillon, et elle est là, la ligne que je cherchais, dans la Bible ouverte ou sur le cul du mec allongé à mes côtés, psaume 139, 12, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière, wap bap boum.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 et nous venons d'entendre Nicolas Chemla nous lire son Little Richard, sorti du livre paru chez Fayard qui s'appelle Les mots de la musique. On va tout de suite écouter Little Richard.
Ouais, c'est mieux.
Voilà, c'est pour le plaisir. Ça sera tout aussi bien.
Well, all right, everybody. Yeah. I just got back. Yeah. From my tour over in England. Yeah. Everybody's talking about the rock and quave over in England. Yeah. Come on over, baby. Hold on while the shake is going on.
On vient d'écouter Little Richard à la suite de la lecture géniale de Nicolas Chemla de son texte sur cet artiste incroyable. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Donc, je vous ai découvert grâce à ce texte. Ensuite, j'ai eu entre les mains un petit texte qui s'appelle Amsterdam, qui est paru à la collection Vrie chez Zone Critique,
ouais,
qui est une très bonne collection. Hein.
Ouais.
Donc, texte aussi fulgurant que je vous recommande, où vous rappelez entre autres que l'homosexualité en 2025, ce n'est pas forcément encore gagné,
non,
notamment dans les quartiers, dans les communautés musulmanes. Parce que ce texte, que vous l'avez dit tout à l'heure, a été écrit en 1994, c'est ça, dans les années 90?
Non, 2000, Amsterdam, c'est 2007.
2007, d'accord.
Et du coup, on a rajouté une postface.
Voilà, une postface qui rappelle ça, ouais.
Oui, parce que de fait, je savais, d'ailleurs, Pierre Polygone, le directeur de Zone Critique, me l'a confirmé, que certains gays, on va dire, autorisés, jeunes, découvrant le texte avant qu'il sorte, disait mais enfin on n'écrit plus sur l'homosexualité comme ça, comme s'il y avait une manière et une seule autorisée à nouveau de parler de ça, et donc de, un peu pour me justifier, puis aussi pour des questions de format, parce que c'est un texte effectivement très court, qui faisait partie d'un ensemble de trois textes, hein, qui étaient, les deux autres étaient beaucoup plus longs. J'ai rajouté cette postface pour expliquer que non, contrairement à nouveau à un certain discours dominant, notamment sur les réseaux sociaux et dans les universités, qui voudrait que voilà, quoi, il n'y a qu'une seule manière d'être gay, qui est toujours fier et sans histoire, on va dire. Donc je reprends...
Normal, quoi.
Ouais,
espèce de norme.
Je reprends au début de la postface la citation d'une très jeune artiste qui a gagné plein de victoires et qui est très Télérama-friendly, qui commençait son interview en disant qu'elle ne voyait aucun problème à être queer. Et donc effectivement, je pense que c'est un peu important de rappeler comment c'est pas facile, quoi. Et donc voilà. Bref, donc ça c'est Amsterdam, ouais.
Ouais. Et donc suite à ce texte-là, je me suis plongé dans le monumental Monsieur Amérique, 600 pages, hein, consacré au destin fascinant et tragique de Mike Menzer.
Ouais.
Comment ça vous est venu cette idée d'écrire sur un culturiste des années 80 aux États-Unis, qui n'est même pas connu en France, même aux États-Unis, c'est pas non plus, il est beaucoup moins connu que Arnold Schwarzenegger, par exemple.
Ouais, quasiment c'est tombé dans l'oubli.
Voilà, c'est ça. Comment ça, d'où c'est venu?
Alors bon, d'où viennent les choses, c'est une question.
Alors comment vous l'avez découvert ce culturiste, comment vous l'avez découvert?
Non, mais attendez, je vais vous répondre. Alors d'abord, petite parenthèse. Whole Lot of Shaking Going On, c'est le premier morceau qu'on entend dans Monsieur Amérique.
D'accord.
Donc il y a des connexions souterraines entre mes textes, même si donc ouais, effectivement, Little Richard, c'est le dernier et c'est le plus court. Et Monsieur Amérique, c'est mon premier roman et que de fait, il est colossal. Parce qu'il s'agit de raconter un colosse qui a incarné un pays-continent, l'Amérique, quand il était au fait de sa gloire, enfin quand le pays-continent, l'Amérique, est au fait de sa gloire, puisque Mike Menzer a eu l'honneur d'être Monsieur Amérique en 1976, l'année du bicentenaire. Et donc, de fait, il est totalement tombé dans l'oubli, parce que c'était le némésis de Schwarzenegger qui a tout fait, et qui le revendique, hein, pour que Mike Menzer disparaisse de l'histoire. Et donc il y est quasiment arrivé, on est quelques milliers de par le monde à encore considérer que ce type était vraiment génial, indépendamment de son physique, parce que Mike Menzer a la particularité d'être un bodybuilder, on l'appelait The Thinking Man's Bodybuilder, donc c'était un bodybuilder cultivé, lettré, même s'il était autodidacte, philosophe, théoricien, qui a un peu rué dans les brancards du système, parce que c'est un vrai système qui est en place, et on le voit encore plus aujourd'hui, hein, avec des milliards de dollars à la clé.
C'est du spectacle et de l'argent, grosso modo.
Oui, mais enfin, c'est-à-dire que l'industrie du fitness et de la nutrition...
C'est cette industrie-là.
C'est une industrie où on parle de plusieurs milliards de dollars, déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui, avec donc tout ce qui va autour, hein, les vêtements, les suppléments, les compléments alimentaires, les drogues, les abonnements dans les salles de gym, bref. Donc voilà, Mike Menzer, c'était ça. Alors comment m'est venue cette idée? De différentes... D'abord, en fait, quand j'ai fait ma prépa, le thème de philo changeait tous les deux ans, et le thème à l'époque, c'était le corps. Donc voilà, je devais avoir 18 ans, j'ai passé une année avec un prof génial, Louis Grand, qui s'appelait Etché Goyen, qui nous a plongé dans l'histoire des rapports entre le corps et la philosophie, enfin comment la philosophie a traité le corps, et donc je trouvais ça génial et passionnant, et moi qui étais un petit garçon chétif qui avait grandi dans les livres et qui globalement n'avait quasiment pas fait de sport jusqu'à ses 18 ans, j'ai d'un seul coup découvert en fait le corps, et donc ça a été le début d'une démarche pour moi de me réapproprier mon corps, par la pratique et par la pensée, et donc voilà, moi c'était vraiment un thème qui m'a toujours fasciné, toujours intéressé, et puis...
Donc vous découvrez en même temps la musculation et la philosophie, en tout cas les Grecs, quoi, grosso modo.
Ouais, enfin non, c'était pas... Moi, j'étais plus marqué par la lecture de Merleau-Ponty que de Socrate et Platon. Mais bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est un thème qui m'a longtemps travaillé. Et puis, très vite, j'étais confronté à une forme d'insatisfaction parce que j'ai trouvé que c'est pas un thème qui est très bien traité par la littérature, notamment la littérature française. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais, et quand je parle du thème, je parle pas du bodybuilding. Hein. Le bodybuilding n'est absolument pas traité. Mais le corps lui-même, je trouve que c'est un peu l'angle mort. En France, notamment, quand on en parle, c'est sous l'angle soit du désir, soit de la déchéance et de la maladie. Pour faire simple, je sais qu'il y a des exceptions et que c'est une grossière simplification. Mais c'est
entre Genet et Guibert, c'est ça, hein, grosso modo.
Alors Genet, c'est pour moi, c'est vraiment l'exception absolue, quoi. Enfin, c'est une fulgurance, un peu comme Little Richard dans l'histoire de la littérature. Il y en a pas deux comme lui, pour faire simple. Mais donc voilà. En tout cas, voilà. Moi, ça venait de là. Il y avait une insatisfaction et une fascination. Et puis bon, voilà. J'ai écrit plein de choses différentes.
Aligre FM 93.1.
Avant d'être un roman, j'avais l'idée d'un essai. Parce que donc, j'ai mon premier livre, c'est un essai sur le luxe qui s'appelle Lucifer, où je parle à la fois du luxe et du diable, et de la figure de Lucifer comme la figure de la recréation du monde, et donc à la fois de la liberté, de l'humanité qui s'empare de son destin. Et après ça, j'avais envie d'écrire je voulais faire un essai sur Mapplethorpe, le diable et la musculation. Parce que je voyais dans les trois, donc sachant que Mapplethorpe était fasciné par les bodybuilders et fasciné par Satan, enfin, ou Lucifer, on va dire, pour faire simple. Et je trouvais, moi, ce qui m'intéresse, c'était la démarche, parce que c'est quelque chose que je développe dans Lucifer, de comment la photographie et le cinéma transforment le minéral en organique, donc le carbone en vivant. Et à l'inverse, le bodybuilding, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire comment on transforme de l'organique en minéral, avec cet objectif inatteignable du Iron Man, des muscles d'acier, etc. Et donc, bon, l'essai ne s'est pas écrit. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Guillaume Vallée, à l'époque, hein, que vous avez reçu ici, je crois. Donc, il y a un sociologue, un des seuls universitaires, en tout cas, il y a 10 ans.
Qui a écrit La Fabrique du Muscle.
La Fabrique du Muscle. C'est un des seuls universitaires qui s'est vraiment intéressé à ce sujet-là, et sans le prendre, parce que une des manières de traiter le bodybuilding, c'est toujours avec distance, voire avec ironie, mépris, ricanement, et jamais à hauteur d'homme. Et Guillaume Vallée, il a pris le truc de l'intérieur, et donc moi aussi. Donc, tout ça fait qu'à un moment, j'ai pas mal fréquenté les salles de muscu, comme beaucoup de gays des années 2000 et 2010, et encore aujourd'hui, on va dire. Et j'avais, à l'époque, ma grande époque de international executive, où je passais ma vie dans les aéroports, j'avais un personal trainer, un coach personnel, et je m'étais trouvé un débardeur en ligne sur un site un peu vintage, sur lequel il y avait la silhouette de Mike Manzer, donc sachant qu'il a une silhouette assez distinctive, et notamment un visage, parce que donc c'est le type avec les cheveux longs et la moustache, quoi. Espèce de Tom Selleck sous stéroïdes. Et donc, il n'y avait pas son nom. Moi, je trouvais juste que c'était cool, que ça avait un petit côté vintage, et je portais fièrement mon petit débardeur dans les salles de sport. Et Michel, mon prof à qui le livre est dédié, m'avait dit « Ah, tu connais Mike Manzer ?» Point d'exclamation, point d'interrogation. Et donc, moi, je lui ai dit « Qui ?» Et donc là, il me raconte l'histoire de Mike Manzer. Et je me dis, je pensais qu'il a fabulé. C'était tellement inimaginable qu'un personnage pareil soit totalement tombé dans l'oubli et que moi, qui m'intéresse au sujet depuis quand même pas mal de temps, n'en ai jamais entendu parler. Je me suis dit, c'est un truc de complotiste, quoi. C'est une espèce de légende Internet. Et donc, je suis allé en ligne et là, j'ai découvert qu'effectivement, il y a un côté légende d'Internet, parce que c'est vraiment il y a un fond souterrain de mecs qui n'arrêtent pas de commenter le fameux Olympia 1980, qui est la grande compétition internationale que Mike Manzer devait remporter et que Schwarzenegger a truqué et qui revendique, hein, d'avoir, non pas truqué, mais enfin, il reconnaît qu'il y a eu des petits arrangements, et qui a totalement fait voler en éclats aussi bien l'esprit, la psyché et la vie de Mike Manzer, qui, du coup, a connu une longue déchéance.
Alors, expliquez justement en quoi ils sont différents tous les deux et comment ils sont opposés finalement dans leur démarche,
ouais,
par rapport au corps et au culturisme et au bodybuilding. Expliquez leur différence.
Ça va être compliqué de... Juste pour finir, donc je découvre en fait l'histoire de Mike Manzer, ouais, et là je me dis, moi qui rêvais d'écrire un roman mais qui n'avais pas je me sentais pas d'inventer une histoire, parce que j'ai tellement de respect pour la narration et les romans bien écrits, enfin, ou dans lesquels il y a une véritable histoire et on se moque pas du lecteur. Je me sentais pas d'inventer de toute pièce une histoire. C'est un talent que je ne me reconnaissais pas, en tout cas pas à l'époque. Et donc on m'amène sur un plateau cette histoire qui est totalement hollywoodienne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y a tous les ingrédients.
The Rise and Fall, enfin, les clichés.
Voilà, The Rise and Fall, justement, la rivalité entre les deux titans, Schwarzenegger et Menzer, le grand manipulateur qui était Joe Weider, le patron du business du fitness à l'époque, et encore aujourd'hui. Et donc voilà, je me dis, le truc est sous mes yeux, on me le sert sur un plateau. Et donc voilà, j'ai tout plaqué, je suis parti mener mon enquête et me plonger dans sa vie, et j'en ai tiré ce roman. Alors la rivalité, elle est assez compliquée à...
Pas tant la rivalité, la différence de philosophie, d'approche, de conception de ce sport.
Non, mais on va rentrer dans des détails de fitness qui ne vont pas intéresser.
Moi, je vais vous dire comment je l'ai perçu. Y en a un qui s'en sert comme une volonté de domination, et l'autre qui plutôt l'aborde comme une quête de soi. Et il y en a un qui cherche à prouver qu'il est le plus fort, le plus puissant, et qui veut de toute façon régner et aller jusqu'au top. Et l'autre qui en fait une philosophie et qui cherche surtout à approfondir le lien entre le corps et l'esprit. Voilà comment je l'ai perçu.
C'est très bien résumé.
Bon, l'émission est terminée, merci, au revoir. Non. Développé ça parce que c'est intéressant. Parce que moi, a priori, je n'étais pas intéressé par la musculation. Et en France aussi, il y a une espèce de dédain, de mépris pour la musculation, les bodybuilders. Il y a une image, ce sont des bœufs, ils sont shootés aux stéroïdes, ils se branlent en salle ensemble. Ouais. Et finalement, quand on prend la peine de s'intéresser au sujet, on découvre que c'est des gens qui ont une démarche esthétique, une démarche morale, parfois éthique, qui consiste à réunir en soi à la fois l'artiste et l'œuvre.
Voilà. Mais oui, alors, bon, il y a tout ça, effectivement, et il y a aussi le fait que pour Menzer, et donc en plus il faut se resituer, on parlait des années 50 tout à l'heure, Little Richard, et de 1976, donc ensuite 25 ans après. On est vraiment dans la grande période du progrès entre guillemets du XXe siècle, malgré la Shoah et l'espèce d'abîme qui s'ouvre au milieu du XXe siècle, on est quand même, notamment dans les années 50 et 60, on est dans le retour d'un élan progressiste et potentialiste de l'humanité. La science invente en permanence des nouvelles molécules qui vont résoudre tous les problèmes du monde. L'économie et le capitalisme sortent de fait des milliards de gens de la misère. Et on est dans la conquête de l'espace. Hein. Donc il n'y a pas de limite à ce que l'esprit humain est capable d'accomplir. Et donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de siècles de pour faire simple, de positivisme, hein, donc même si le positivisme est un terme qui date du 19e siècle, mais voilà, cette foi dans le progrès, dans la capacité de l'esprit humain, je parlais de Lucifer tout à l'heure, il y a quelque chose de ça, en fait, il y a cette volonté de bâtir le monde à son image et de repousser les frontières du possible. Et pour Menzer, mais c'est pas le seul, hein, il s'inscrit dans une lignée qui remonte au premier siècle de notre ère, mais qui s'accélère à la fin du 19e, parce que le premier bodybuilder de l'ère contemporaine, c'est Eugène Sandow. Eugène Sandow, c'était pareil, une superstar dans le monde entier. Il était accueilli comme un dieu au Japon, en Inde, partout. Et il était présenté comme le spécimen le plus développé de l'espèce humaine. Donc, sachant qu'on est à une époque, fin 19e, début du 20e, où toutes les théories racialistes sont très présentes.
Oui, c'est Gobineau, grosso modo.
Mais voilà, il est exposé dans les musées. Le British Museum va faire mouler son corps dans une exposition sur les races. Voilà. Et donc, bref, tout ça pour dire que dès cette époque-là, commence à se cristalliser le discours de le corps est améliorable. Et d'ailleurs, enfin, c'est une question fondamentale. Pourquoi on a un corps ? À quoi il sert ? Et dans quelle mesure on doit ou pas le développer à son potentiel extrême ?
Spinoza disait que peut un corps ? C'est la question.
Ben voilà. Donc que peut un corps et jusqu'où ? À la fin du 19e et début du 20e, il y a vraiment ça s'inscrit aussi dans les démarches du futurisme italien, par exemple. Voilà. Il y a cette idée que à l'ère des machines, des locomotives, de l'électricité, on peut en fait, et on doit, c'est un devoir moral, développer le corps au maximum de son potentiel. Après, il va se poser du coup la question de c'est quoi le maximum et jusqu'où il faut aller. Mais donc Menzer, lui, il s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Et donc dans les années 50, je vous dis, ça s'accélère. Sachant qu'en plus, il y a des rivalités géopolitiques, les États-Unis, l'URSS. Et donc pour lui, le bodybuilding, c'est une démarche philosophique, individualiste, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire ça s'inscrit dans une démarche de développement de l'individu, que chacun doit devenir la meilleure version de lui-même. Donc une démarche, on va dire, mélioriste.
Donc il cite Nietzsche et Mishima, par exemple.
Ah oui, oui,
ce qui est assez étonnant. On ne voit pas Arnold Schwarzenegger citer Mishima, pareil.
Non, alors il l'a fait après, parce que dans Conan s'ouvre sur une citation de Nietzsche, mais il l'a fait bien après que Menzer ait expliqué qu'il y avait des rapprochements à faire. Mais bref, tout ça pour dire que donc, Menzer, c'est effectivement un type, c'est un idéaliste qui veut écrire avec son corps une nouvelle étape de l'humanité, hein, vraiment, et il est présenté comme tel. Schwarzenegger, il en a strictement rien à faire de tout ça. Comme vous l'avez dit, il est dans « je veux être le meilleur, je veux… » et il le dit texto, hein, il y a des interviews dès le milieu des années 70.
Oui, il n'y a pas de duplicité chez ces gens-là.
Il est interviewé… Alors si, il y a une duplicité, mais qui est à un autre niveau. Ouais. Mais dans une interview, je crois, du Spiegel, il explique qu'il a toujours rêvé de voir l'humanité entière s'agenouiller devant lui, hein, et que ses grands modèles, c'est Jésus, Hitler, enfin tous les gens qui ont réussi à manipuler les foules… Enfin, c'est ses termes à lui.
Oui, bien sûr, on a compris.
Je ne fais pas le rapprochement entre Jésus et Hitler. Mais Schwarzenegger, oui. Et là aussi, où il y a une autre rivalité qui est vachement intéressante, à mon sens, c'est que Schwarzenegger, c'est vraiment l'incarnation du « bigger is better ». Et une des raisons pour lesquelles il est adulé encore aujourd'hui, c'est qu'il est effectivement « bigger ». Il est plus grand et plus massif que tous les champions de l'époque et qu'une bonne partie, alors massif non, mais en tout cas, il y a beaucoup de bodybuilders, il faut le savoir, qu'ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont très petits. Schwarzenegger, il fait, je sais plus, 1m85, enfin, il est grand par rapport au reste des bodybuilders. Donc, il y a ce côté « bigger is better » et qui s'accompagne d'une philosophie d'entraînement qui est « more is better ». Donc, en fait, il dit qu'il faut passer sa vie à la gym 6 heures par jour, 6 jours par semaine, et que si tu peux pas, bah tant pis pour toi, c'est que t'as pas le courage, c'est que t'es pas assez fort, c'est que t'es une chochotte, c'est que t'es une mauviette, etc. Menzer, lui, il arrive avec une approche scientifiquement démontrée qui va à l'exact opposé et qui dit mais non, surtout pas, en fait, il faut laisser, un peu comme on laisse gonfler un gâteau dans le four, il faut laisser le muscle se reposer parce que donc, tout le processus de développement musculaire, c'est destruction-régénération. Et donc, il prône un système d'entraînement ultra court, 3 jours par semaine.
Des séances de 20 minutes en plus.
Des séances de 20-25 minutes maximum. Et donc encore aujourd'hui, hein, y a plein d'études qui montrent que de fait, c'est la meilleure manière de construire du muscle. Et donc ça va pas du tout avec la philosophie maximaliste du business qu'il y a derrière. Parce que si vous allez à la gym que 3 fois par semaine, aucun intérêt à prendre un abonnement. Lui en plus, alors il démonte tous les mythes de la nutrition sportive. Il dit que les protéines globalement, ça sert pas à grand chose. Enfin bref, il rue dans les brancards de tout ce système qui est ultra développé et qui est très visionnaire, parce qu'aujourd'hui, la plupart des marques, même en dehors de cet univers, fonctionnent de la même façon, avec des médias, avec des ambassadeurs. Hein. Les bodybuilders étaient en fait des espèces de poupées Big Jim, hein, qui étaient en couverture des magazines pour promouvoir tout le système qu'il y a derrière. Et Disney fonctionne exactement de la même façon. Tout Nike fonctionne de la même façon. Donc Weider, c'est un entrepreneur visionnaire, et on a tendance à l'oublier. Et Menzer, il rue dans les brancards, et bah, du coup, forcément, il se prend le mur, enfin, on fait tout pour le silencer, comme on dit de nos jours.
Alors, vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Nicolas Chemla, donc vous avez écrit Monsieur Amérique. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause musicale en écoutant les Pink Floyd ou on développe un peu plus le profil? Parce que l'heure avance, il est déjà midi moins.
Ah, on n'aura peut-être pas le temps d'écouter les Pink Floyd.
Je propose de passer les Pink Floyd.
Qui est un morceau clé.
Et que chacun pourra écouter chez soi.
Voilà. Donc c'est Careful with Attacks Eugene, pour ceux qui veulent.
Fais gaffe à la hache, Eugène.
Qui est un morceau clé dans Monsieur Amérique.
Donc on invite l'auditeur à l'écouter après l'émission. Il va sur YouTube ou sur Spotify. Ouais. Continuons sur ce destin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc, vous avez très bien décrit la démarche opposée de Mike Menzer par rapport à Arnold Schwarzenegger. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va connaître l'échec la ruine et il va finir clochard. À un moment de sa vie, il est à la rue, il finit en HP.
Ouais, il passe. Bah en fait, la deuxième partie de sa vie, donc c'est une longue descente aux enfers, et donc avec pas mal d'années passées en HP, le reste dans une espèce de brume de drogue et de calmants et de lithium en fait. Hein, il est un peu victime de la tendance à l'époque à surdoser, enfin et à prescrire le lithium à tout va et à le surdoser, sachant que, donc c'est là que ça rejoint le Carrefour Louis d'Attaxugène, le lithium, enfin étymologiquement c'est vraiment le minéral quoi, et donc c'est finalement son cerveau lui-même qui va finir par se calcifier, par se transformer en pierre, mm-hmm. sachant que c'était l'objectif du bodybuilding, c'est de devenir mm-hmm. une statue de pierre, donc c'est là qu'il y avait quelque chose d'assez assez jouissif d'un point de vue symbolique, et Carrefour Louis d'Attaxugène, c'est attention à cette hache Eugène, et on a l'impression comme ça d'avancer dans un couloir où on ne sait pas ce qu'il y a au bout, et d'un seul coup on trouve cette hache, qui est donc la hache, c'est du minéral, hein, mm-hmm. et qui fait voler en éclat aussi bien la musique que l'esprit de l'auditeur. Et moi, ce qui m'intéresse, le bodybuilding, c'est sympa, mais je crois qu'on est là aussi pour parler de littérature. Et donc, justement, cette deuxième partie de la vie de Mike Manzer, elle était pour moi un enjeu fondamental de littérature et de romanesque et de travail de romancier. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, on m'a amené sur un plateau cette histoire où globalement il y avait tous les ingrédients d'un grand récit. Moi, ce qui m'a excité et le défi que je me suis posé, hein, parce que globalement personne ne me l'a demandé, c'était comment reconstituer, en fait, comment on raconte la vie d'un homme. Et comment, donc il y a le fameux Print the Legend hein, de John Ford, comment on raconte la vie d'un homme qui a été lui-même une légende, mais dont la vie en même temps, globalement d'un point de vue objectif, le mec, il a un peu passé juste sa vie à soulever des poids mmh. et à écrire de temps en temps des articles mmh. pas inintéressants, mais mais voilà.
Et il est mort jeune.
Il est mort jeune. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a pas sauvé la planète. Mmh. Il a pas donné.
Il est pas devenu gouverneur de Californie, par exemple.
Il est pas devenu gouverneur de Californie. Non, mais il a pas inventé le vaccin de ceci ou de cela. Oui. Il a pas écrit une œuvre. Voilà. Donc il y avait quelque chose d'absolument dérisoire dans cette vie-là. Et qui en même temps pour moi encapsulait tous les enjeux notamment du 21e siècle, hein, non seulement du 20e mais qui annonce les enjeux du 21e. On disait dans l'intro de Zone Critique là, oui. la post-vérité, l'ère du cyborg, les corps instagrammés, etc. Et donc moi ce qui m'intéresse quand je lis un roman, donc y a, c'est la superposition des degrés de lecture, donc il faut qu'il y ait à mon sens un plaisir immédiat de la lecture, aussi bien dans la musicalité du langage et du style, mais aussi dans la narration. Il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'on m'excite un mm-hmm. peu, quoi. Mais ce qui m'intéresse aussi en tant que véritable amateur de littérature, et c'est la même chose au cinéma, hein, la cinéphilie, c'est ça aussi, c'est on jouit aussi de voir comment l'artiste, l'auteur, s'est emparé de son sujet et à solutionner, on va dire, des problèmes de narration et joue en fait avec les codes, avec la narration. Et donc dans l'histoire de Mike Manzer, moi il y avait ça, il y avait comment je vais rendre intéressant un truc qui non seulement n'intéresse personne, mais répugne la plupart des auteurs et du milieu littéraire, et surtout comment je vais reconstituer la vie d'un type qui est tombé dans l'oubli, les gens qui se souviennent de lui n'existent plus, ou se souviennent de rien, ou ne veulent pas me parler, parce que donc j'ai reçu des cease and desist, enfin des menaces de poursuite de la part de certaines personnes qui voulaient pas que je parle de Mike Manzer. Mmh. Et surtout, un type dont la deuxième moitié de la vie est une espèce de long brouillard où lui-même se perd, mmh. on perd sa trace. Mmh. Et donc ça, c'était assez génial d'un point de vue, enfin excitant en tout cas pour moi, d'un point de vue...
Et en tant qu'écrivain, ce que vous décrivez, c'est aussi ce moment de l'humanité, là où vous l'avez très bien décrit, où l'homme se prend pour un propre dieu, il se met à s'idolâtrer lui-même, et il pense que... et donc il y a le revers de ça, de cette hubris, de cet orgueil démesuré et prométhéen. Genre, je peux, soit en tant que nation, nous pouvons arriver à émanciper toute l'humanité, et nous, en tant qu'individu, nous pouvons nous libérer de plein de chaînes.
Tout à fait.
Mais le revers de ça, le prix à payer est cher.
Exactement.
Et c'est ça que vous montrez bien, en fait, la face obscure de cette quête de lumière.
Ouais, bah oui, c'est ça, parce que bah pour moi c'est ça la littérature. Quoi. Il faut qu'il y ait un fleuve souterrain, il faut qu'il y ait un démon qui vient vous murmurer à l'oreille, il faut qu'il y ait un prix à payer. Enfin, j'ai rien inventé, hein. C'est quand même ça la littérature, je crois.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Nicolas Chemla. Donc ça me permet d'enchaîner très naturellement sur vos deux derniers livres, hein, Murnau des ténèbres et L'abîme.
Oui.
Alors vous continuez à ausculter les profondeurs et l'obscurité de l'âme humaine. Vous pouvez nous parler un peu de Murnau, parce que Murnau est connu comme un cinéaste un peu occultiste.
Ouais.
et en fait, vous racontez ce dernier film qu'il fait, où il part à la quête de la lumière et du paradis, quelque part.
Ouais, sauf qu'il emmène en fait les ténèbres avec lui, volontairement ou non. Mmh. Donc oui, Murnau, c'est le réalisateur du premier Nosferatu, hein, puisque tout le monde a parlé de Nosferatu... au cours des dernières semaines, puisqu'il y a eu un nouveau remake. Donc Nosferatu, c'est un film absolument sidérant. Le premier, hein, c'est une espèce de diamant noir qui survole au-dessus, surnage au-dessus de l'histoire du cinéma et qui a posé les bases de pas mal d'aspects du cinéma contemporain. Et Murnau, c'est un personnage assez fascinant, assez énigmatique à nouveau. Hein, donc j'en reviens au défi, en fait, pour le savoir-faire de l'écrivain. Et donc la question de comment raconter une histoire dont on connaît déjà la fin, sur un type assez énigmatique, au sujet duquel en fait on a très peu de traces, véritablement, à part des notes de tournage. Même le livre que Lotte Eisner a écrit sur lui, en fait, est assez succinct en termes d'éléments véritablement biographiques. Il avait tenu un journal, mais on sait qu'il y a beaucoup d'affabulation dans son
ouais.
journal, notamment le journal de tournage de Tabou. Et donc oui, il part à un moment, il fait sa crise de la quarantaine, alors que dans les années 20, il règne sur Hollywood, après qu'on l'ait fait venir de Berlin, Fox, le fondateur de la 20th Century Fox, le fait venir de Berlin parce que c'est le mec qui arrive à faire des films à la fois populaires et en même temps très artistiques. Et le cinéma est en train, à cette époque, d'inventer son langage et de se constituer une image un peu de respectabilité artistique et intellectuelle. Bref, il plaque tout et il traverse l'océan sur un petit bateau qu'il vient d'acheter, sachant qu'il vient d'avoir son permis, pour aller aux Marquises et ensuite à Bora Bora et Tahiti pour tourner un film qui s'appelle Tabou. Et il fait l'objet d'une... Enfin, quand il tourne, il va tourner sur un îlot tabou. Le film s'appelle pas encore Tabou, mais l'îlot sur lequel il va tourner est tabou, c'est-à-dire interdit par les locaux. Et on sait pas trop pourquoi, alors qu'il était pas du tout dans la posture méprisante envers la culture locale, au contraire. Toujours est-il qu'il passe outre l'interdit et qu'il s'installe sur cet îlot.
Et donc le tournage est maillé de plein de problèmes.
Voilà, à partir de là, tout part en vrille. Il finit son film, qui est considéré par un chef-d'œuvre. Et quand il rentre aux États-Unis, il meurt une semaine avant la première du film dans un accident de voiture. Et à l'époque, ça fait la une des journaux. On parle de la malédiction de Murnau, la malédiction de Tabou. Et donc à nouveau, voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est un personnage assez dingue, plus ou moins oublié en dehors des cercles cinéphiles. Et même à l'époque, quand je me suis lancé dans l'écriture de Murnau, j'ai croisé plein de cinéphiles et de critiques de cinéma qui m'ont dit « Mais enfin non, tu vas perdre ton temps, ça n'intéresse plus personne ». Moi, j'en ai un peu rien à foutre. Je me dis « Mais non, c'est génial, c'est un sujet incroyable ». Parce que, il y a, comme dans Mike Menzel, enfin, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais dans cette histoire de Murnau qui part tourner un film qui n'est pas a priori un film fantastique, mais qui va finalement être rattrapé par les ténèbres de son œuvre, puisqu'il a quand même fait Nosferatu, premier film de vampire, Faust, voilà. Donc c'est quand même un type qui est travaillé comme ça par la noirceur et l'occulte, on va dire. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a l'impression en fait qu'il bascule. Donc moi, j'ai ce côté quand même un peu 21e siècle, hein, le siècle du méta, quoi. Il y a quelque chose de méta, en fait, dans l'histoire de Murnau, on a l'impression qu'il bascule dans sa propre œuvre. Et quand on raconte son histoire, on se dit, mais oui, en fait, c'est ça. Il devient un personnage de ses propres films. Donc j'ai trouvé ça, voilà, intéressant.
Et vous, Nicolas Chemla, qui vous intéressez beaucoup à l'occultisme, qui en parlait de plus en plus, parce que l'abîme va vraiment au cœur d'une histoire aussi très luciférienne.
Ouais.
Vous n'avez pas peur de basculer du mauvais côté à trop
vouloir vous... J'ai peut-être déjà basculé.
Déjà peut-être.
Ouais.
Parce qu'en fait, vous définissez le diable, c'est une définition d'ailleurs classique, académique, comme celui qui divise, hein, ou l'esprit qui sans cesse nie.
L'étymologie, ouais.
Voilà. Donc, où serait l'unité perdue où serait la lumière face à ce mal et à cette obscurité, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025?
Waouh.
J'ai conscience de du côté considérable de la question, mais
dans la littérature, je crois que justement c'est un des derniers bastions de, enfin sachant qu'elle-même est totalement, on va dire désormais grignotée, voire pourrie de l'intérieur. Mais je crois que ouais, on est encore quelques-uns à croire en une certaine manière de l'aborder, un peu sans compromis, et en même temps en s'intéressant à ce qui la fonde véritablement, c'est-à-dire le langage et la narration. Et donc de réfléchir à ça, de travailler la matière littéraire elle-même, aussi bien, donc à nouveau, hein, la langue et la structure narrative et les personnages, et pour voir comment on la corrompt pas, en fait. Parce que bon bref.
Vous voulez dire que l'écriture c'est la meilleure arme contre le nihilisme, parce que vous avez fait ce diagnostic-là que Nietzsche a fait, que Heidegger a fait. Ce qui caractérise notre époque, c'est le nihilisme en fait. C'est l'espèce de volonté. Il y a plus de vérité, il y a plus de transcendance, il y a plus rien qui nous réunit. C'est chacun dans son coin avec son téléphone, ses catégories de pensée, de représentation, et il y a plus de lien, il y a plus d'universel.
Bah, disons que moi j'aime bien cette idée de littérature comme un lien entre des âmes un peu perdues, esselées, voilà, dont la voix s'élève dans l'obscurité et le bruit assourdissant du monde, quoi.
Et est-ce à dire que le verbe en fait, oui, pardon.
Non, mais c'est juste pour dire, je vis beaucoup seul avec mes livres et c'est ça le plaisir de la lecture, c'est d'entendre la voix d'outre-tombe, quoi, de gens qui avec lesquels vous allez vous sentir une connexion, un lien. Et ouais, je crois, enfin après voilà, moi je à nouveau, je viens de la culture juive, hein, pour laquelle vraiment le langage c'est quelque chose de magique, de divin. Enfin, au commencement,
c'est le verbe.
Au commencement était le verbe, quoi. Et donc il y a quelque chose pour moi de fondamental dans l'expérience de l'humanité, dans l'écriture et dans la parole, quoi.
Oui, quelque chose d'irréductible.
D'irréductible, oui, mais enfin de fondamental en tout cas. Je sais que c'est un peu impensif de dire ça, mais j'ai parfois l'impression qu'on est en train de le perdre, que de plus en plus notre communication se limite à des émojis et des borborygmes. Enfin voilà, et donc le temps du livre, le temps de l'écriture et le temps de la lecture, et ce truc complètement dingue d'avoir du carbone, quoi, des traces de minéral sur de l'arbre mort, mais qui ouvre en fait vos yeux et votre âme, et qui font apparaître des choses de l'imaginaire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
La littérature comme dernier rempart contre la déliquescence et le néant. Merci beaucoup Nicolas Chemla d'être venu sur Aligre FM pour parler de votre travail, de vos livres, de votre œuvre.
Merci.
Merci aux techniciens, à Matine, à Lucas et à Sephraim, c'est ça, qui sont derrière la vitre et qui assument très bien leur travail. Merci à Yves de nous avoir reçus et à la semaine prochaine.
Merci.
Bye-bye.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.